Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Des corps en mouvement, voici le thème du dernier LUM, le magazine Sciences et Société de l'Université qui vient tout juste de paraître. Dans ce 20e numéro, nous vous proposons d'explorer ce corps à travers les travaux d'une quinzaine de chercheurs et chercheuses. Un corps qui, lorsqu'il est défaillant ou soumis à des contraintes extrêmes, peut compter sur la science pour aider, par exemple, les cosmonautes à retrouver leur capacité musculaire après un séjour dans l'espace. Vous le découvrirez dans le portfolio, ou pour redonner le geste à des personnes tétraplégiques grâce à l'électrostimulation neurale. Parler de corps en mouvement, c'est aussi parler de sport, bien sûr, une valeur positive dans notre société qui nous fait parfois oublier que le sport est aussi le lieu de nombreux stéréotypes de genre, de pratiques discriminantes très discutables sur le plan du droit, comme les tests de féminité, voire même de pratiques dangereuses comme le dopage. Le corps est également le lieu premier et peut-être ultime de la socialisation. Il reste pourtant un des grands impensés de l'école, alors qu'il peut paradoxalement prendre une place prépondérante dans les institutions carcérales, comme a pu le montrer dans ses travaux Laurent Solini, sociologue au laboratoire Synthésie, qui a réalisé plusieurs enquêtes dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, un EPM. C'est avec lui aujourd'hui que nous prolongeons ce numéro de LUM en consacrant cette émission à son dernier ouvrage, un ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec deux autres sociologues et ethnologues, et qui s'intitule « Les déplacés ». Portrait de parcours de jeunes sous main de justice. En croisant parcours judiciaire et récits de vie, il tente de comprendre comment une socialisation discontinue structure les parcours de ces mineurs et cadre leur comportement et leur subjectivité. Laurent Solini, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour et merci de votre invitation.
Avec plaisir. Avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour tout le monde.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors Laurent Solini, vous évoquez dans ce livre le parcours de quatre jeunes sous main de justice, Lola, Lucas, Jason et Rémi. Pour commencer, cette expression sous main de justice, elle interpelle, qu'est-ce qu'elle signifie ?
Eh bien, en fait, sous main de justice, cela veut dire que les mineurs qui ont commis des délits ou des crimes, et qui sont donc ces délits et crimes connus par les services de justice, sont mis sous main de justice en cela que les délits et les crimes vont être jugés donc par un juge des enfants, magistrat, magistrate. Et à partir de là, il va y avoir un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place pour pallier à ces délits et à ces crimes, donc différents placements possibles, différents travaux d'intérêt général par exemple, il y a différentes sanctions liées à la gravité des délits ou des crimes commis.
Alors, le terrain qui vous sert de base pour écrire cet ouvrage, vous l'avez réalisé entre 2018 et 2020 dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Déjà en 2008-2009, vous aviez réalisé un premier terrain en EPM, celui dont on parle dans l'article publié dans le magazine LUM. Ces EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, ils ont été créés en 2007. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel projet ça a structuré à ce moment-là ?
Oui, alors en 2007, en fait, ce qu'il se passe, ils sont sortis de terre en 2007, mais la loi d'orientation et de programmation pour la justice qui les rend actifs, en quelque sorte, date de 2002. Et l'objectif, c'était de pallier à l'incarcération des mineurs telle qu'elle était effective jusque-là, à savoir que les mineurs incarcérés étaient incarcérés donc dans des quartiers mineurs, ce qu'on appelle des QM, qui sont généralement des ailes réservées aux mineurs dans des maisons d'arrêt adultes, majeures. Ça impliquait un certain nombre de difficultés. En tout cas, ces difficultés étaient énoncées comme telles par le ministère de la Justice, à savoir que dans un premier temps, la protection judiciaire de la jeunesse, donc PJJ, qui est en charge du suivi de ces mineurs et de leur possible réinsertion, n'avait pas une place pérenne à l'intérieur des quartiers mineurs, tout simplement parce que ces quartiers mineurs, structurellement, n'étaient pas adaptés aux mineurs. C'est-à-dire que ce sont vraiment des maisons d'arrêt où, à un moment donné, on a cloisonné une aile, un couloir, pour être clair, généralement, à l'intérieur duquel on a dit, bon, bah là, on va pouvoir placer 5 à 10 mineurs incarcérés. Mais le projet n'était pas réalisé en amont, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé l'incarcération des mineurs en amont dans ces quartiers mineurs. C'est vraiment après coup qu'on s'est dit, bon, bah, dans cette maison d'arrêt, on va structurer une aile, un couloir plutôt, et on va pouvoir y mettre ici un certain nombre de mineurs incarcérés, ce qui fait que la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas une place pérenne à l'intérieur. C'est l'administration pénitentiaire qui est en charge de ces quartiers mineurs. Donc ça, c'était un premier problème, en cela que le suivi des mineurs en incarcération était un suivi discontinu, difficile. Ça obligeait les éducatrices et les éducateurs à aller en prison, à prendre rendez-vous, et cela était assez complexe, en fait, pour les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Autre chose, l'autre élément qui était donné à la justification de la constitution de ces EPM, c'est de dire que le fait d'avoir des mineurs en quartier mineur, ça construisait des croisements avec les majeurs. C'est-à-dire que bien que les mineurs et les majeurs n'ont pas le droit de se croiser, dans les faits, c'était très très compliqué de rendre complètement hermétique un couloir, une aile, uniquement pour les mineurs, dans la mesure où, rien que par les fenêtres, par exemple, il y avait la possibilité d'échanger, et que les échanges allaient parfois bien au-delà de simples discussions par les fenêtres. Donc ces deux éléments-là ont amené la constitution de ces prisons pour mineurs uniquement pour les mineurs, et le projet de ces EPM est donc, enfin en tout cas il est présenté comme ça, hein, c'est la réinsertion, l'éducation, parfois il y a les termes de resocialisation ou de rééducation qui sont également employés à l'intérieur de la prison. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vraiment il y a une possibilité éducative en prison ? La réponse a été de dire oui, mais on incarcère vos jeunes, mais on les incarcère bien. C'est souvent des propos qui ont été repris. Comment fait-on pour éduquer en prison ? Eh bien, on tente de recréer à l'intérieur des murs la vie hors les murs. Ce qui fait qu'on a une forme de succès d'année ou d'ersatz de la vie ordinaire d'un adolescent à l'intérieur des EPM. Et de ce point de vue-là, donc le projet EPM est censé être capable de mettre en activité constante les jeunes pour leur réinsertion, pour leur éducation. Et la protection judiciaire de la jeunesse a vocation à être pérenne à l'intérieur de ces établissements pénitentiaires pour mineurs. Voilà.
Alors, à côté de ces EPM, il existe des unités à encadrement éducatif renforcé, créées en 96, des centres éducatifs renforcés, les CER, puis des CEF, centres éducatifs fermés, en 2003. Il y a les QM dont vous avez parlé. Vous parlez d'un maillage qui fonctionne comme un réseau d'institutions dont la clé de voûte est le déplacement des jeunes, ce dont on veut parler aujourd'hui. Alors, ces jeunes, comment on les déplace? Pourquoi on les déplace? Sur quels critères?
Alors, les placements, déplacements, replacements se font effectivement, comme vous le dites, à partir d'un maillage complexe. C'est-à-dire que, en fait, depuis plus d'une dizaine d'années, on crée de plus en plus d'institutions, centres éducatifs fermés, EPM, les QM sont toujours existants, sans, comme vous l'avez dit, centres éducatifs renforcés, plus tout le placement en milieu ouvert. Et il se trouve que ces jeunes, quand on reprend leur parcours, ils sont éminemment déplacés tout le long de ce maillage institutionnel. Et ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est que malgré le fait qu'il y ait des prérequis au déplacement, c'est-à-dire qu'il y a quand même des impératifs, normalement, qui devraient être des impératifs plutôt liés soit aux problématiques familiales, c'est-à-dire possiblement de ne pas trop écarter le jeune de sa famille, possibilité aussi d'intégration dans des lieux de stage, dans des lieux professionnels qui sont assez peu éloignés de son lieu de vie. En fait, il se trouve que ces jeunes sont déplacés parfois de manière assez distanciée de leur lieu d'habitation. Et les justifications que l'on trouve, notamment dans les dossiers de suivi judiciaire, sont la plupart du temps comportementalistes. C'est-à-dire qu'à partir du comportement de ces jeunes, à partir de l'évaluation et de leur comportement et de ce qui est nommé leur dangerosité, eh bien, on va les déplacer sur une échelle d'institutions qui n'ont pas toutes la même valeur en termes de contraintes. C'est-à-dire que effectivement, on va possiblement d'abord les placer, déplacer dans les milieux ouverts, donc dans les foyers, dans les espaces dits les familles d'accueil, les tiers de confiance, etc., possiblement. Et puis, en fonction des actes commis ou d'autres actes qui vont survenir à l'issue du placement, on va augmenter, pour ainsi dire, la peine de placement, c'est-à-dire qu'on va possiblement les mettre dans des espaces plus fermés. Centre éducatif fermé, par exemple. Et s'il y a fugue ou problématique comportementale, incident, par exemple, à l'intérieur, on va passer dans le domaine pénitentiaire. Passage en établissement pénitentiaire pour mineurs. Et si en établissement pénitentiaire, il y a encore des problèmes, on peut basculer en quartier mineur, qui est considéré comme la peine par excellence, puisque c'est censé être la vraie prison. En tout cas, c'est comme ça que les professionnels souvent la représentent, puisqu'on est sur un, comme je l'ai dit, un morceau de maison d'arrêt classique.
Alors, parmi les quatre jeunes dont on lit les portraits dans votre livre, il y en a trois qui ont connu de nombreux déplacements entre institutions, mais aussi au sein même de l'institution dans laquelle ils étaient déjà, à travers ce que vous appelez les régimes différenciés. Vous pouvez nous en dire quelques mots de ces régimes ?
Oui, alors ce terme-là, il ne vient pas de nous. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle effectivement dans l'institution et notamment l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de l'EPM, à l'intérieur de l'EPM, il y a des petits pavillons, des unités de vie dans lesquelles il y a les cellules et dans lesquelles sont donc incarcérés, enfermés les jeunes. Et les unités de vie ont des régimes différents. Ces régimes, en fait, sont des régimes qui vont du plus ouvert au plus fermé. Là où ça varie, c'est notamment, par exemple, tous les temps collectifs dits informels, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, étant, on va dire, espace collectif après le dîner, avant le coucher en cellule, eh bien, dans le régime le plus ouvert, ils sont tous pris en collectif. Donc, dans des espaces dédiés à cet effet, voilà, des espaces de sociabilité, les unités de vie sont en prison, mais correspondent parfois dans la structure à des mini-foyers, donc il y a un baby-foot, il y a un espace de sociabilité, il y a une cuisine, et donc tout ça, les jeunes peuvent en jouir comme ils l'entendent dans ce régime ouvert. Et plus leur comportement est délictueux, plus il y a d'incidents, et plus on les bascule d'une unité à l'autre, jusqu'à l'unité la plus fermée, où là, aucun des repas n'est pris en collectif, tout est pris en cellule, cellule individuelle, donc hein, en EPM, je le précise, et il n'y a pas de temps laissé au loisir, c'est pas le terme qui convient, mais de laisser à la sociabilité hors cellule, puisque tous les repas sont pris en cellule et qu'il n'y a pas de sortie de cellule possible, si ce n'est pour les activités obligatoires.
Alors, ces déplacements, ils s'accompagnent à chaque fois d'un changement d'encadrement. Vous parlez d'un retour à zéro, une discontinuité éducative qui, depuis 10 ans, est devenue, dites-vous, un lieu commun pour la PJJ. Alors, comment elle se manifeste concrètement, cette discontinuité, pour les jeunes et aussi pour leurs encadrants ?
Discontinuité éducative dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a déplacement, et comme vous l'avez noté, ils sont nombreux, hein, et ils sont assez généralisés, en fait, hein, dans la mise sous main de justice, en tout cas de plus en plus, à chaque fois qu'il y a déplacement, il y a des difficultés en termes de passage de relais d'information entre notamment l'éducateur ou l'éducatrice milieu ouvert, qui a la référence du jeune, et puis quand ils sont placés en institution, il y a des références à l'intérieur de l'institution, et le passage de relais de la référence milieu ouvert à la référence milieu fermé est déjà difficile. En plus de ça, quand il y a, comme vous l'évoquez, des changements dans les régimes, des changements à l'intérieur même des établissements, par exemple un changement d'unité de vie, il y a là encore des changements de référence éducative à l'intérieur, ce qui fait qu'on multiplie les références et on rend de plus en plus difficile, voire très opaque, le passage de relais, le passage d'informations. Et à chaque fois, des entretiens que l'on a fait avec les nouvelles références éducatives qui, entre guillemets, récupèrent les jeunes, il y a un vrai premier travail difficile de récupération des informations, et donc il n'y a pas de suivi, de continuité du travail, et parfois il y a une vraie difficulté à récupérer ces informations, l'éducatrice milieu ouvert n'est pas disponible, c'est compliqué, elle est compliquée à avoir, ou l'éducateur, même à l'intérieur d'une même structure, C'est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que ces professionnels sont surchargés de travail. On parle souvent du nombre de dossiers des juges et des magistrats, etc., et qu'ils doivent gérer un nombre incalculable de dossiers, et que ça devient très très difficile de rentrer en profondeur dans chacun des dossiers pour faire du cas par cas. Les éducateurs, éducatrices en référence, c'est la même chose. Et ils ont énormément de dossiers à gérer, et de fait, parfois, le passage de relais qui rajoute du travail est difficile. Est très difficile, et donc c'est ça qui fait discontinuité éducative, c'est ce manque d'informations en relais.
Alors on va revenir sur Lola, Lucas, Rémi et Jason qui sont dans votre ouvrage. Vous le précisez, ces jeunes ne représentent pas tous les jeunes, alors pourquoi avoir choisi ces quatre jeunes-là ?
Alors on ne les a pas vraiment choisis, en réalité c'est plutôt eux qui nous ont donné leur accord vis-à-vis de l'enquête. On a fait une enquête ethnographique et on fonctionne, comme c'est écrit dans l'ouvrage, par relais de rencontre. C'est-à-dire qu'on arrive dans un établissement, on fait des veilles, donc des présences dans cet établissement, à raison de 3-4 jours par semaine pendant plusieurs mois, et en fait on est en relation directe avec les jeunes, et les jeunes nous posent des questions, savoir pourquoi on est là, qui on est, de manière extrêmement pratico-pratique, et avec certains de ces jeunes se noue un contact un peu plus particulier, un peu plus singulier. On leur explique ce qu'on fait, ils nous donnent leur accord pour qu'on les suive un petit peu, pour qu'on fasse des entretiens avec eux, ces jeunes rencontrent d'autres acteurs, notamment les acteurs de justice, rencontrent leurs proches, etc., etc. Et donc, c'est ça qui fonctionne par relais de rencontre. C'est-à-dire qu'à partir du jeune, on se trouve à rencontrer les professionnels qui sont l'entour premier du jeune, puis la famille quand, par exemple, elle vient la rencontrer. Dans le cas de Jason, par exemple, Jean-Charles Basson, qui a écrit ce chapitre et fait l'enquête, se retrouve à aller au jugement de Jason, donc à aller au tribunal et à rencontrer son père par ce biais-là. Et il va pouvoir du coup faire des entretiens avec le père par relais de rencontre. Et ça fonctionne comme ça pour tous les portes. On ne sait pas à l'avance en fait quel jeune on va rencontrer, comment ça va fonctionner et qui on va pouvoir rencontrer dans la constellation du jeune, la constellation humaine. Donc ça se fait comme ça, chemin faisant, par essai-erreur. Pour avoir 4 portraits, on a essuyé plus de 20 échecs. Voilà.
Alors vous êtes plus particulièrement penché sur le cas de Rémi. Rémi, en 5 mois, il a connu 3 déplacements, 2 changements de référence éducative. Quand vous le rencontrez à l'EPM, il vient d'être déplacé d'un quartier mineur pour raisons disciplinaires. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui et de la méthodologie que vous avez mis en place avec lui ? Vous le rencontrez quand ? À quelle fréquence ?
Alors je le rencontre donc quand il arrive à l'établissement pénitentiaire pour mineurs, où je suis moi déjà en enquête. Et quand je le rencontre en fait très concrètement à la salle de musculation, donc puisqu'ils ont de l'activité physique à l'intérieur de l'EPM, dont la musculation. Et donc je sais en avance qu'il est déplacé, je sais d'où il vient, je sais de quel quartier mineur il vient, parce que les professionnels en parlent en fait. C'est-à-dire que comme il est déplacé pour raisons disciplinaires, notamment l'administration pénitentiaire est en surveillance, fait attention, se dit tiens, là il y a un jeune qu'on va recevoir qui est déplacé pour raisons disciplinaires. Il faut faire attention à ses conduites à l'intérieur de l'EPM quand il va arriver. Donc je le sais par avance.
Il a un dossier qui circule avant ou
alors
ça
non,
il
y a pas encore le dossier okay. n'est pas encore arrivé et par contre c'est vraiment du bouche à oreille. Le fait d'être en détention, moi avec les surveillants, les moniteurs de sport, les éduques, etc. On en parle. Quand il y a un jeune qui arrive, il y a toujours avant qu'il arrive, les choses se disent. Et donc là, effectivement, il y a possiblement un jeune à problème. On l'appelle une patate chaude. Et donc, de fait, l'administration pénitentiaire, passez-moi l'expression, se crispe un peu avant l'arrivée, toujours parce que eux, leur principale mission, c'est quand même de tenir une détention. Donc il faut faire attention aux incidents possibles. Et donc je sais qu'il y a un jeune qui va arriver, je travaille sur les déplacements, je sais qu'il est déplacé, donc ça m'intéresse. Donc je sais qu'il va se retrouver, quand il arrive dans l'unité arrivant, je sais qu'il va aller en musculation. Et donc je vais en musculation à ce moment-là, je commence à discuter avec lui, c'est comme ça que commence l'échange. le courant passe, si vous me permettez l'expression, et de fait, ça va être une relation de plusieurs mois avec lui, où je vais le suivre, où on va échanger de manière informelle, de manière excessivement régulière, et il va y avoir aussi des entretiens plus formalisés, au nombre de 8, dans lesquels on va revenir, en fait, à la fois sur son histoire, sur son parcours, et je vais le suivre, en fait, à l'intérieur de la détention pendant tout ce temps-là.
Alors justement, sur la question de ces entretiens, ces jeunes, ils ont une particularité en entretien que vous soulignez, vous, dans votre ouvrage, c'est que malgré un niveau scolaire assez faible, avec souvent un décrochage précoce, ils ont développé une compétence du récit de soi, avec l'interpellation, la fouille, la garde à vue ou le jugement, tous des moments forts où il se met une mise en scène de soi, que vous dites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi
oui.
ça consiste ?
En fait, c'est corollaire à leur placement, déplacement, replacement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont placés, déplacés, il y a des entretiens qui sont réalisés avec ces jeunes pour leur expliquer parfois la raison du déplacement. Parfois, les déplacements sont un peu plus sauvages et ils ne sont pas expliqués. Mais dans tous les cas, il y a des entretiens qui sont nombreux. Déjà, parce qu'il y a des passages devant jugement. Donc, le magistrat, la magistrate, il y a des entretiens de ce type-là. Il y a une référence éducative qui prépare le jeune. Ils le disent souvent comme ça. On le brief avant le jugement. Chose à dire, à pas dire, etc., etc. Il y a l'avocat ou l'avocate qui joue également un rôle de ce point de vue-là. Et puis, il y a toutes les références voilà, qui se surajoutent, dont on a un peu déjà parlé, et qui se multiplient avec les placements, déplacements. Et donc, ça permet une forme de socialisation au système de justice, aux choses à dire, à ne pas dire. Et ça fonctionne parfois par essai-erreur. C'est le cas de Rémi, où si son passage en incarcération se fait donc, pour une multitude... d'incidents qu'il a commis, donc usurpation d'identité notamment, conduite sans permis, consommation de stupéfiants. Il se trouve qu'il y a aussi incarcération parce qu'il y a quasiment un outrage à magistrat, c'est-à-dire qu'il va un peu trop loin dans sa manière de délier et de les faits, sa manière parfois de prendre les choses un peu à la rigolade, etc., d'essayer, il le dit lui-même, de faire de l'humour avec la juge qu'il a en face de lui. Et l'éducatrice dira, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu un outrage à magistrat, mais tout ça joue un peu contre lui, mais il s'en aperçoit après coup, puisque de retour au quartier mineur, on lui dit... tu vas être déplacé à l'EPM pour raison disciplinaire. Voilà. Donc y a une mise en récit de soi qui se fait en fonction de tous les entretiens qui comme ça se surajoutent et progressivement, et c'est l'objet du portrait de Rémi, il y a une socialisation à être correct, à cette correction qui est attendue de lui et qui se fait... progressivement, dont on voit les essais-erreurs au départ et dont on voit l'efficacité progressivement dans le cadre de son portrait, puisqu'il arrive à finir par se faire oublier du système de justice. Voilà.
Alors, donc justement, ce portrait, donc, il s'appelle « Déplacé jusqu'à être oublié », ça aurait pu être « Déplacé jusqu'à se faire oublier », puisque vous montrez bien que justement, en gommant finalement, en gommant tout ce qui peut lui valoir des ennuis et qu'on pourrait interpréter comme un parcours en fait, d'insertion réussi, vous montrez que finalement, c'est la mobilisation de dispositions acquises avant la prison et qui montre un attachement à la délinquance dont il vient, à ce milieu-là. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Oui, en fait, dans le cas de Rémi, il y a cette idée. Rémi, il est présenté à l'intérieur de l'EPM comme un cas facile, un cas classique de petite délinquance. C'est comme ça que c'est qualifié chez lui. Et donc, Rémi, à l'intérieur de l'EPM, quand bien même il y a eu des incidents au quartier mineur, à l'intérieur de l'EPM, il ne pose pas véritablement de problème. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problématique comportementale. Et comme il n'y a pas de problématique comportementale, l'administration pénitentiaire l'oublie assez rapidement, puisque c'est vraiment la dimension comportementaliste qui fait surgir les événements et la fixation de l'administration pénitentiaire sur certains jeunes. Et même au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse, ils disent qu'il y a une certaine aisance chez Rémi à être en EPM, ça n'a pas l'air de poser difficultés. Et comme ils ont énormément de cas à gérer, beaucoup plus problématiques, Rémi passe en dernier. Et finalement, il ne passera jamais, pour ainsi dire. Et donc, de ce point de vue-là, en réalité, moi, ce que je montre dans le portrait, pour creuser un peu du côté de Rémi, c'est qu'il est inscrit dans une délinquance quasi professionnelle. Il est en délinquance profonde depuis un certain nombre d'années. Il est en respectabilité vis-à-vis de ce qu'il appelle les grands, c'est-à-dire des majeurs qui sont inscrits dans des délinquances professionnelles de cambriolage, de pratiques de vente de stupéfiants, de traite aussi d'êtres humains. Voilà, donc c'est une imbrication d'un certain nombre de délinquances de type professionnel, de réseau professionnel, à l'intérieur desquels il rentre progressivement. Et il y a une figure dans ce milieu-là qu'il appelle lui-même être serein, c'est-à-dire en fait une forme de posture virile qui ne joue pas l'ostentation. J'ai qualifié ça d'une forme de disposition guerrière froide, en cela que l'objectif, c'est pas de jouer des muscles, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'être en joute exprimée, verbale, physique, constante, et en rébellion exprimée face aux situations ou face aux institutions que l'on a en face de soi. C'est plutôt de montrer un recul, une distance, qui montre que l'on contrôle la situation sans avoir l'impression de la contrôler. Et cette figure-là, c'est une forte figure de respectabilité chez Rémy, qu'il a incorporée au sein de ce milieu de la délinquance professionnelle, où certes, à un moment donné, il faut montrer, comme ils le disent eux-mêmes, parfois par des joutes verbales et physiques, mais la plupart du temps, il faut montrer son sang-froid, parce qu'on n'a pas besoin de montrer quand on contrôle la situation en réalité. Et c'est ça qu'il appelle être serein, et cet élément-là, il y reviendra lui-même dans les entretiens, en disant, mais finalement, je suis serein aussi face à la justice maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps, le quartier mineur, les premiers jugements, où il n'était pas serein, où il dit « j'étais pas serein, j'en ai trop fait, et ça m'a valu le déplacement, ça m'a valu presque mon incarcération. Et en réalité, progressivement, j'ai appris à être serein, et en réalité, il a appris à être correct face à l'institution de justice par ses dispositions guerrières froides. Voilà. »
Alors, Rémy, justement, vous l'avez accompagné jusqu'à sa sortie en 2020, je crois, c'est ça. Est-ce que depuis, vous avez eu de ses nouvelles?
Alors, je n'ai pas eu de ses nouvelles directement. C'est-à-dire, je ne l'ai pas lui re-rencontré ou je n'ai pas pris échange avec lui. Par contre, par un certain nombre de professionnels qui entendent où vont les jeunes, etc., je sais qu'il a été réincarcéré chez les majeurs par la suite. Voilà.
Merci encore et revenez nous voir dans Allume la Science quand vous aurez de prochaines publications, avec plaisir.
Très bien, merci à vous.
Et on passe maintenant à notre invité de dernière minute. Et cette semaine, c'est Agnès Pesanti, responsable du service de la culture scientifique, événements et diffusion des savoirs à l'université, qui vient donc nous parler de la fête de la science. Bonjour Agnès.
Bonjour Lucie.
Bienvenue dans cette nouvelle saison d'Allume la Science.
Merci.
Alors, donc, tu nous parles aujourd'hui de l'événement de l'année pour la culture et la médiation scientifique. Donc, je viens de le dire, la fête de la science qui va débuter ce vendredi. Peux-tu nous parler du thème cette année?
Mais bien sûr. Alors, avec deux événements fédérateurs comme une Coupe du monde de rugby et les JO en France en 2024, la thématique cette année s'intitule « Sport et science », en toute logique. Et nous espérons effectivement que ce sera une édition très fédératrice.
En plus, il me semble que l'université est coordinatrice au niveau départemental, c'est ça?
Oui, effectivement, pour la 7e année, l'université de Montpellier coordonne l'événement à l'échelle du département de l'Hérault. Du coup, ça veut dire qu'on a une très très belle visibilité sur ce qui va se passer. Et on sait déjà que ce sera plusieurs centaines d'animations gratuites et accessibles à tous aux quatre coins de l'Hérault qui se profilent.
Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous ces événements, évidemment. Plusieurs sites de l'université vont participer. Est-ce que tu peux nous faire quelques focus?
Alors, comme chaque année, nous ouvrons le village des sciences de l'Université de Montpellier à la faculté d'éducation. Et là, on ouvre les portes à tout librement au public samedi 7 et dimanche 8 octobre. Là, toutes les sciences y seront représentées au travers d'une trentaine de stands, ateliers, jeux, rencontres, débats, etc. Tout le public, jeune ou moins jeune, est invité à venir nous rendre visite. Hein. Et comme la thématique porte sur le sport, tel que je viens de le dire, le sport et les sciences, le même week-end, nous ouvrons également et exceptionnellement le Palais universitaire des sports Verassi. Et là, par contre, toutes les nombreuses animations et démonstrations inédites sont en lien avec les sciences et techniques, des activités physiques et sportives.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements dont tu veux nous parler ?
Eh bien oui, on enchaîne le samedi 14 octobre, et là, ce sera au tour du parc de Lunaret de faire Festival des sciences. Là aussi, toute une journée avec un programme très très riche, accessible à tous librement, gratuitement. Et toujours le 14 octobre, donc ça va être toujours le samedi 14 octobre, c'est le campus Saint-Priest qui ouvre ses portes. Alors c'est un campus qui dépend de l'Université de Montpellier. Et là, ce sont les sciences du numérique et de l'information, de l'intelligence artificielle et de la robotique qui seront à l'honneur toute la journée.
Avec notamment le LIRM dont on parle souvent.
Notamment le LIRM, le LMGC, effectivement, tous ces gros laboratoires sont vraiment ouverts, enfin, dont les thèmes de recherche sont complètement en lien avec le numérique et l'intelligence artificielle, la robotique et toutes les sciences de l'information. Et le même jour, c'est le CNRS également qui propose de venir voir ce qui se passe derrière ces portes, derrière les portes de ces laboratoires qui, la plupart du temps, sont fermées. Et bien là, elles seront ouvertes, route de Mende, avec une opération qui s'appelle Enquête de science au CNRS.
Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire pour ces événements? Alors, ou est-ce qu'on y va comme ça?
Pour le campus Saint-Priest, c'est ouvert librement sans inscription. Le CNRS demande effectivement des inscriptions en amont. Mais si l'on va sur le site www.fêtedelascience.fr, hein, et là on a la possibilité de géolocaliser, de citer ses préférences en termes géographiques, eh bien on va arriver sur le CNRS le 14 et on voit effectivement qu'il y a tous les contacts et tous les liens pour pouvoir s'inscrire au préalable.
Super, merci beaucoup Agnès.
Mais merci Lucie, et puis à très bientôt.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.